COP comme COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat qui vient de se terminer à Paris. Les 195 pays qui y participaient sont arrivés à un accord qui prévoit de poursuivre les efforts pour limiter, si possible, la hausse des températures à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. L'aide aussi aux pays en développement doit atteindre 100 milliards de dollars annuels en 2020. C'est une somme plancher appelée à être revue à la hausse. Alors les négociations sont maintenant terminées. Le véritable travail va commencer car il va falloir que chaque pays mette en place des mesures très concrètes pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Pour en parler, Alix Mazzoni de l'ONG Réseau Action Climat, bonjour.
Bonjour.
Et Anne-Laure Barral, notre spécialiste environnement à France Info. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors c'est vrai que comme chaque fois, l'accouchement d'un accord s'est fait dans la douleur, mais tous les participants ont quand même, Anne-Laure, salué cette année la préparation de cette COP par la France.
Oui, il était peut-être un petit peu moins douloureux que d'autres accouchements, cet accord. Mais contrairement à Copenhague, on va dire que cette fois, les pays sont arrivés avec un plan, alors que la dernière fois, il y a 6 ans, ils avaient les mains vides, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Là, au moins, ils s'étaient bien préparés et 185 pays, même 186, le Venezuela a fait son plan pour réduire sa pollution dans les années à venir, le dernier jour de cette conférence. Donc c'était effectivement, pour une fois, une conférence bien préparée par les pays.
Alix Mazzoni, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait le sentiment que les COP se succédaient, que les décisions urgentes étaient remises à plus tard. C'est peut-être sur ce point que cette COP 21 est réussie, avec des décisions dès aujourd'hui qui engagent.
Alors justement, il y a des décisions importantes qui ont été prises au cours de la COP21, mais en même temps, justement, c'est des décisions qui finalement repoussent à 2025 l'urgence climatique et l'action réelle des États. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit bien que les engagements justement dont parlait Anne-Laure, c'est-à-dire leurs plans nationaux qui se sont fixés en matière de lutte contre les changements climatiques, aujourd'hui, quand on les agrège, ça nous place sur une trajectoire de 3 degrés. Or, ces plans, ils n'ont pas l'intention d'y retoucher avant 2025. C'est-à-dire qu'on a une fenêtre de 10 ans dans lesquelles il ne va pas se passer grand-chose, ou alors en tout cas, la société civile va devoir travailler très très dur pour qu'il se passe des choses, pour que les États relèvent leurs objectifs. Et donc pour nous, ça veut dire qu'on... c'est grave parce qu'on ne peut pas se permettre ce luxe. On n'a pas 10 ans devant nous, on peut tranquillement attendre. Quelque part, on a vu partout dans la presse le côté un grand pas en avant, etc. Moi, j'aurais envie de dire, il faut qu'on arrête de marcher, qu'on se mette à courir, parce que sinon on n'arrivera pas, en fait, à relever ce défi que nous a mis l'accord de Paris, de dire on stabilise en dessous de 1,5 degré.
C'est un défi
très ambitieux.
Quand on dit COP réussie, qu'est-ce que vous répondez ?
Je dis que c'est réussi notamment d'un point de vue extérieur à la COP, c'est-à-dire que tout au long de l'année, avant même que l'accord soit signé, un certain nombre d'acteurs économiques, des investisseurs et des collectivités territoriales, elles se sont engagées et quelque part ce signal qu'on a besoin de s'éloigner définitivement des énergies fossiles, donc le gaz, le pétrole et le charbon, ce signal il a été envoyé et il a été reçu par ces acteurs puisqu'on a vu une réorientation des investissements massive, 1000 maires qui s'engagent pour le 100% renouvelable à horizon 2050, enfin plein de bonnes nouvelles comme ça qui montrent bien que quelque part la transition est en marche. Et qu'il faut accélérer cette transition énergétique. Après, accord ou pas accord, peu importe, en tout cas, elle est là. Et d'ailleurs, le dernier jour de la COP, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, le cours du charbon a commencé à chuter. Donc, quelque part, effectivement, il y a un impact un peu direct de cette COP, pas forcément de l'accord en tant que tel, mais de cette mobilisation des acteurs.
Alors, je voudrais vous citer Tariq Ibrahim, c'est le ministre de l'Environnement des Maldives, et il a déclaré que l'histoire jugera le résultat de cette COP, non pas sur la base de l'accord, mais sur le travail qui allait être fait à partir de maintenant. Ça veut dire que le travail, il commence aujourd'hui ?
Oui, c'est exact. Je pense qu'il résume extrêmement bien le problème. C'est-à-dire que là, on a un morceau de papier qui nous donne une direction, qui nous donne un mode d'emploi sur comment on va faire, mais que tout reste à faire, puisqu'encore une fois, les engagements actuels des États sont loin d'être suffisants, et que la liste des choses à faire, elle va être longue pour concrétiser cet accord. En France, par exemple, ça va passer par la suppression ou l'annulation de tout projet qu'on appelle climaticide, c'est-à-dire émetteur de gaz à effet de serre, qui aujourd'hui qui sont dans les tuyaux, où le gouvernement peut encore dire non. Par exemple, Notre-Dame-des-Landes fait partie de ces projets-là. Il y a aussi la nécessité d'arrêter de subventionner le tout camion, le tout avion, parce qu'en France, on a une politique comme ça qui finalement subventionne la pollution plutôt que de subventionner le train ou les transports publics. Donc il y a des décalages comme ça qu'il va falloir régler. C'est pas des décalages simplement en France, c'est des décalages dans tous les États de la planète. Et donc il y a un effort massif à faire puisque les 10 prochaines années vont être cruciales.
Alors Anne-Laure, la COP fixe des objectifs, mais elle laisse chaque pays signataire libre de mettre en musique sa contribution. Très concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant que chacun est retourné dans son pays ?
Ah, il peut rien se passer du tout parce que c'est des politiques qui ont engagé leurs États pour faire ces plans. Mais après, les politiques changent. On pense aux États-Unis notamment avec l'élection prochainement, un congrès républicain très climato-sceptique. Donc s'il veut revenir sur les engagements qu'a pris Barack Obama par exemple pour changer ses centrales à charbon, ce genre de choses, il peut tout à fait repartir en arrière. Donc là, c'est pour ça qu'il y a effectivement maintenant ce moment où on va regarder ce que chaque État fait, ce que chaque nouveau chef d'État ou gouvernement vont faire pour respecter le plan, mais aussi peut-être pour faire mieux. Alors ça, c'est peut-être la version optimiste des choses, mais il y a quand même eu un club de pays juste avant la clôture de la COP qui était emmené par les îles Marshall, l'Union européenne, il y avait aussi le Brésil qui était dedans pour dire soyons plus ambitieux encore que ce qu'il y a écrit dans l'accord, faisons mieux. Et voilà, c'est un peu la révolution des négociations climat, c'est-à-dire que l'ONU avait essayé d'imposer avec le protocole de Kyoto un accord d'en haut avec des mécanismes assez contraignants qui ciblaient bien les secteurs où il fallait faire bouger les choses. On a vu que ça n'avait pas marché, que les États en étaient sortis les uns après les autres. Là, elle se dit, bon, je vais tenter par, on va dire, la carotte d'être le bon élève de la classe, d'inciter les États à peut-être faire mieux, mais effectivement, l'objectif des 2 degrés et des en dessous à 1,5 n'est pas sur la table encore.
Alors, Alex Mazzoni, justement, pour atteindre les objectifs de cette COP, vous parliez tout à l'heure du cours du charbon, il faut un abandon progressif de ces énergies fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole ou le gaz. Rien n'a été dit dans cette COP sur la façon de le faire. Ça, c'est un des manques de la COP.
C'est clairement un des manques de la COP et c'est très symptomatique en fait de la façon dont se déroule cette négociation, c'est-à-dire qu'elle évite les sujets qui fâchent. Or, le sujet qu'il va falloir traiter, même s'il fâche un certain nombre d'États, c'est bien la question de comment on fait pour laisser 80%, je répète 80% des réserves en énergie fossile dans le sol. C'est la condition à laquelle on pourra tenir cette limite de 2 degrés. On ne parle même pas d'1,5 degré. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en œuvre. C'est vraiment dommage que l'accord de Paris n'écrive pas noir sur blanc cette réalité si scientifique, hein, ça vient, c'est un mix de les rapports des scientifiques et les rapports de l'Agence internationale de l'énergie qui expliquent cette nouvelle donne. Et l'accord de Paris ne dit pas clairement comment il va le faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire et qu'on ne va pas le faire, mais c'est juste dommage finalement qu'il n'y ait pas ce signal très très fort qui soit envoyé directement par les Nations Unies à la communauté des investisseurs.
Alors Anne-Laure, je voudrais juste une petite explication parce qu'on dit qu'il faut une révision des objectifs nationaux tous les 5 ans, elle est obligatoire, mais le projet d'accord qui a été signé fixe la prochaine révision à 2025. Alors là, je ne comprends pas. On dit tous les 5 ans, on est en 2015 et on dit bah c'est pour 2025.
C'est un peu ce que disait Alix, hein, c'est que les pays sont arrivés avec un plan pour réduire leur pollution. Le Maroc a dit qu'il allait faire plus d'énergie renouvelable que ce qu'il fait déjà. D'autres pays, le Bhoutan a dit qu'il allait faire une agriculture à 100% bio. Il y en a qui se sont penchés sur la question des transports, de leur ville de demain. Si on fait des maisons très éloignées des lieux où on travaille, va falloir faire des transports en commun pour éviter qu'il y ait des voitures et de la pollution. Donc ces plans-là, ils les ont préparés pour une fois pour une conférence. Maintenant, pour certains pays, vous imaginez bien que ça a été long et douloureux de le faire. Donc, l'ONU leur laisse encore un peu de temps pour revoir, refaire mieux. Et donc, c'est pour ça qu'elle leur a fixé quand même ce mécanisme pour... On sait que votre plan, il a été compliqué à faire, mais il n'est pas suffisant. Va falloir refaire des efforts. Donc, on vous donne 5 ans pour le refaire. Elle aurait pu leur dire... Mettez-vous au boulot dès l'année prochaine. Elle leur a laissé encore plus de temps. Ça, c'est un peu dommage.
Justement, Alix Mazzoni, l'année prochaine, une nouvelle COP est prévue au Maroc. À quoi va-t-elle servir ?
Alors la COP au Maroc, on l'a surnommée la COP africaine. C'est vraiment très important parce qu'elle va se dérouler sur le continent le plus affecté aujourd'hui par les changements climatiques. Donc c'est vraiment l'occasion de mettre les sujets de l'Afrique au cœur de la négociation, que ce soit la question des impacts face au changement climatique et donc la question financière de comment on va faire pour répondre à ces impacts, comment on va faire pour éviter ces impacts. Donc ça, c'est un des sujets qui a été traité mais qui peut être renforcé lors de la COP à Marrakech. Et ensuite, la question des énergies renouvelables et des investissements nécessaires. Il y a une initiative qui a été mise sur la table à Paris, qui est très très intéressante, qui vise à doubler l'accès à l'énergie en Afrique rien qu'avec des renouvelables. Donc c'est une première étape qu'il va falloir consolider, parce que autant on parle d'énergie soutenable, autant on va dire qu'il y a toujours du flou autour de qu'est-ce qu'on appelle une énergie réellement renouvelable. Et moi, ce qui m'inquiète, et je pense que c'est la société civile qui partage ce constat, c'est le risque qu'on ouvre la porte à tout et n'importe quoi au nom de la crise climatique.
Merci beaucoup Alix Mazzoni, merci aussi à Anne-Laure Barral. Les mots de l'info, c'est sur France Info et à retrouver sur franceinfo.fr.